Le 21 janvier, le professeur Jérôme Lejeune, médecin et professeur de génétique découvreur de l'anomalie chromosomique à l'origine de la trisomie 21, a été reconnu vénérable par le Saint-Siège. Désormais, la reconnaissance d'un miracle dû à son intercession ouvrirait la porte à sa béatification. Aude Dugas, postulatrice de sa cause de canonisation, explique que cette étape est une reconnaissance pour l'ensemble de son œuvre, la partie recherche bien sûr, mais également la partie soins. C'est également une reconnaissance pour l'autre volet de son action, qui était la défense inébranlable de la vie. Il était un avocat de la dignité de la vie et des enfants trisomiques. Après sa découverte de l'anomalie chromosomique à l'origine de la trisomie 21, Jérôme Lejeune a consacré toute son énergie à essayer de trouver une solution pour remédier à la déficience intellectuelle des personnes porteuses de ce gène, témoigne le docteur Aimé Ravel qui fut son élève. Il a mis ses talents au service de la dignité de personnes porteuses de handicap, salue de son côté Nicolas Sevilla, secrétaire général de la Fondation Lejeune. À l'inverse, sa découverte a été utilisée à des fins qu'il avait désapprouvées, comme le dépistage précoce des embryons porteurs de ces maladies, facilitant leur élimination par avortement. Le 13 janvier, les parents de Manon ont déposé un recours devant la Cour supérieure de Québec. Ils réclament près de 10 millions de dollars au CHU de Québec et un médecin généticien pour ne pas avoir détecté l'anomalie chromosomique de leur fille lors d'un dépistage prénatal. Manon est aujourd'hui âgée d'une dizaine d'années. Durant sa grossesse, la mère de Manon a été étroitement surveillée du fait de son âge, elle avait plus de 35 ans. Elle a notamment réalisé une amniocentèse, suite à laquelle le généticien n'a pas détecté de problème. Dans le cas contraire, le couple aurait choisi de ne pas mener la grossesse à terme. Le diagnostic a été posé plusieurs mois après la naissance de Manon durant ses premières années de vie. Les parents de Manon étaient persuadés que l'anomalie chromosomique n'était pas visible à l'amniocentèse faite à 17 semaines de grossesse. Mais suite à la rencontre d'un généticien, ils suspectent une faute médicale et enclenchent des procédures judiciaires. Ils estiment que leur problème découle des fautes qu'ils reprochent au docteur Gécas et au personnel de laboratoire du CHU de Québec. Outre les dépenses liées aux soins de leur fille, leurs propres problèmes de santé développés suite à l'annonce du diagnostic, l'impact sur leur vie professionnelle respective et leur éloignement conjugal. Si l'anomalie avait été détectée en prénatal, Manon ne serait jamais venue au monde et les dommages auraient ainsi été évités, écrivent-ils dans leur demande introductive d'instance. Nous ne sommes plus à une contradiction près. Alors que la France se confine à répétition depuis plus de 9 mois pour tenter de sauver le plus grand nombre de personnes d'une mort liée à la pandémie, 118 députés, sous la houlette de Jean-Louis Touraine, déposent une proposition de loi visant à garantir et renforcer les droits des personnes en fin de vie. Selon les termes de la proposition de loi, il s'agit d'autoriser l'assistance médicalisée active à mourir, considérée comme un droit ouvert à une personne majeure et capable, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable. Une fois encore, un droit suppose un bien. Comment la mort, considérée de tout temps comme un mal absolu, définitif, pourrait-elle entrer dans ce cadre? Et pour brouiller davantage les cartes, la mort sera réputée naturelle pour ne pas spolier les héritiers et protéger les médecins qui pourront cependant faire jouer une clause de conscience s'ils ne souhaitent pas pratiquer d'euthanasie. La proposition de loi affirme par ailleurs un droit universel à des soins palliatifs et un accompagnement, mais il est à craindre que la mesure soit de pure forme, ne visant qu'à rassurer ou à endormir des députés hésitants. Ainsi, apprendre à mieux entendre malades ou mourants, apprendre à mieux respecter leur liberté, consisterait en une abdication au moment même où la personne humaine est aux portes de la vie, où elle est la plus vulnérable, la plus fragile. Qui entendra la souffrance cachée, la peur d'être un fardeau, l'impression d'être désormais inutile? Si 85% des Français souhaitent mourir à domicile, ils ne veulent pas forcément y être tués. La question de l'aide à mourir a montré particulièrement ces derniers temps que l'ambiguïté d'une telle demande est notoire et elle a fait l'objet de revirements spectaculaires, telle la mise en scène de la mort d'Alain Coq ou les accusations de Jacqueline Jeanquel. Une question demeure, quelle sera la position du gouvernement sur cette épineuse question? Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres actualités bioéthiques.